Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien bonjour les amis, merci d'être avec nous. Voilà, notre dernière interview de la journée va se faire avec un élu local comme on les aime. Nous le recevons sur le plateau, maire de Montfermeil. Bonjour Xavier Lebrun.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. 106e congrès des maires de France. Alors, je vous rassure, je n'étais pas là il y a 106 ans. Hein. Mais beaucoup de monde, avec un climat politique, on peut le dire, tendu, plus que tendu, où encore une fois, on met les maires au cœur du réacteur, avec finalement des dotations qui fondent comme neige au soleil, ou clairement l'État qui enjoint les collectivités locales de faire des économies ou simplement de récupérer des compétences sans aucun budget. Alors même que ces collectivités locales ont l'obligation d'avoir des budgets à l'équilibre, et un État chroniquement déficitaire qui donne des leçons de gestion. Ça doit vous paraître un peu paradoxal, non ?
Paradoxal, hélas non, je ne devrais pas le dire comme ça, puisque ça fait très longtemps que ça dure, qu'on le dénonce, mais qu'en même temps, voilà, les choses sont ainsi faites. Après, effectivement, on peut regarder ça sous l'angle de la justice, ça peut paraître injuste, ou sous l'angle, je dirais, du devoir qui nous est fait, au regard du mandat qu'on a sollicité auprès de nos habitants, nos administrés, nos concitoyens, de pouvoir tenir une portion du territoire français sur une quarantaine de missions différentes, puisque un maire, c'est 40 métiers différents, d'aller solliciter raisonnablement l'État au regard des moyens dont on a besoin, mais de ne pas en rajouter par une surenchère qui, à un moment donné, je dirais, ne me semble pas digne. Je ne dis pas qu'elle n'est pas juste, mais pas pareil, elle n'est pas digne. Que peut-être, si vraiment les élus locaux en ont assez d'un État qui n'est pas dans l'obligation, par exemple, d'avoir un budget à l'équilibre, pourraient briguer des mandats nationaux. Sauf que, avec le non-cumul des mandats, les choses ont évolué, mais il y a encore une petite dizaine d'années, on avait des acteurs locaux qui étaient également des grands acteurs nationaux. N'y avait-il pas une certaine schizophrénie à un moment qui nous a amené à cette situation ? Donc j'estime, à titre personnel, sur ces 40 dernières années, avoir ma part de responsabilité dans l'état actuel du pays, parce que peut-être qu'à un moment donné, je me suis tué, je n'ai pas suffisamment dit ce que je pensais devoir dire et que j'ai suivi. Bon. Donc on peut toujours se défausser, c'est la faute aux autres, on peut toujours, c'est pas inintéressant de voir les différents niveaux de responsabilité, mais si c'est pour se défausser, ça ne sert à rien. Donc nous avons une situation, elle est ce qu'elle est, elle est déplorable, elle est inquiétante, et souvent, elle repose sur des chiffres qui ne veulent rien dire, alors que le mécanisme est beaucoup plus grave que cela, puisqu'en fait, c'est pas tellement que les collectivités locales dépensent de trop, parce que moi, je veux bien qu'on arrête les crèches, les routes, les cantines, etc., et vous me direz derrière comment ça se passe, c'est que le pays, depuis maintenant plusieurs décennies, ne produit pas suffisamment, et ne produisant pas suffisamment, la part que l'on doit prélever pour l'organisation de la vie collective, eh bien, commence à peser lourd, mais ce n'est pas tellement qu'elle pèse lourd, parce qu'il y a gabegie, dépenses, gâchis, etc. Il y a toujours de l'efficience supplémentaire à trouver, et trouvons-la, mais on n'est pas à l'échelle. En revanche, c'est le pays entier qui s'est transformé, qui s'est désindustrialisé, qui a cru qu'il pouvait devenir un pays de tertiaire, etc. C'est une vaste blague, et on la paye extrêmement cher, pendant que et l'Asie, et maintenant avec Trump en Amérique, on va avoir des moteurs économiques d'une puissance qui vont, je dirais, nous laminer. Bon, donc prenons acte des choses. Et maintenant, comment peut-on apporter notre pierre à l'édifice ? Eh bien, en faisant le mieux possible notre travail, et en, surtout à titre personnel, moi, je veux bien diminuer sur un certain nombre de services dits techniques, mais je renonce à renoncer sur la culture. Je renonce de renoncer sur les politiques du lien social. Je pense qu'on a, nous, maires, la responsabilité de prendre soin au maximum des hommes et des femmes et du lien social, quand bien même on altérerait certaines constructions, certains investissements, etc. C'est jamais de gaieté de cœur qu'on le fait, mais à tout choisir, je préfère avoir des impasses d'ordre technique que des impasses d'ordre humaine, culturel, social, parce que c'est ce qui fait encore la cohésion du pays et que j'estime que sans cohésion, il ne peut pas y avoir de paix et que la paix reste ce que l'on a le plus précieux à non seulement à partager, mais à garder, à préserver. Et je le dis souvent dans mes éditoriaux, voilà, que l'objectif de la paix et du lien social doit primer beaucoup de choses. Mais ce pays doit se reconstruire et décider de peser dans l'économie mondiale. Et voilà.
Quand vous voyez aujourd'hui le discours du Premier ministre, pas simple, hein, d'adopter cette position à sa place, avec des solutions qu'on essaie de trouver pour, par exemple, satisfaire les besoins au logement, parce que jamais le besoin au logement n'a atteint des pics aussi élevés. On le voit, hein, la précarité, la réglementation sociale au niveau du logement, c'est vraiment quelque chose, et c'est vrai que dans votre ville, vous le savez aussi pertinemment, bien évidemment, avec un constat parfois, il faut le dire, d'impuissance à trouver des solutions, sinon des solutions qui coûtent énormément d'argent au pouvoir public. Je pense à l'hébergement d'urgence, par exemple, dans des hôtels qui coûtent extrêmement cher. Je prends la ville de Paris, par exemple, sur cet exemple, à cause, effectivement, à la fois d'une baisse dramatique, rarement connue, de la construction de logements neufs, qui, du coup, compresse sur le marché privé et le marché de l'ancien les prix et les font augmenter. Une décorrélation, il faut le dire, des prix de l'immobilier par rapport aux revenus des Français, avec une dégradation du pouvoir d'achat qui est progressive. On accède de plus en plus tard à la propriété. Le logement social, alors la RLS n'est pas uniquement la cause, mais elle en a fait partie, qui a empêché les bailleurs sociaux de continuer à produire régulièrement du logement social. Quand on voit le nombre d'agréments cette année, c'est quand même assez éloquent. Comment, justement, quand on vous dit, Xavier Lemoine, qu'on va augmenter les droits de mutation, qui seront peut-être fatales aux primo-accédants qui ont très peu de moyens, parfois 1 000 euros d'écart, ça peut resolvabiliser un dossier, pour ou contre ?
L'objectif était de redonner une bouffée d'air financière aux départements qui existent encore et qui, Dieu merci, je dirais souvent, quand on me parle de fusion ou de disparition des départements, c'est le lieu de cantonnement de la dette sociale. Alors, ça obère toutes leurs autres possibilités, et c'est bien triste. Mais le jour où on va demander aux métropoles, aux interco ou aux régions d'éventuellement assumer la dette sociale accumulée dans les départements, on va ruiner tout le monde. Bon, est-ce que c'est le meilleur moyen d'aller suraccidenter le logement pour essayer de sauver les départements qui n'en peuvent plus des dépenses sociales ? Je pense que ça va être le serpent qui va se mordre la queue, et donc, effectivement, on peut contester... je dirais, la bonne logique de cette
disposition. Quand vous parlez des dépenses sociales, notamment le RSA, par exemple.
Le RSA et toutes les autres, ce que vous dites, l'hébergement, les mineurs isolés, etc., qui coûtent, en tout cas en Seine-Saint-Denis, une fortune. Et toutes les personnes qui accompagnent ces personnes sur les trajectoires sociales sur lesquelles ils sont. Bon, on pourrait, sur les questions d'hébergement, poser peut-être la question des flux migratoires qui sont absolument pas gérés depuis des décennies et qu'on a laissé... Enfin, la question des OQTF qui défraient la chronique à longueur de journée devient quand même insupportable. Je ne m'interdis pas de remonter à ce niveau-là. Et je voudrais revenir sur le logement social. Effectivement, la RLS leur a fait beaucoup de mal et aujourd'hui, leur autofinancement, je dirais, il est quasi à plat. L'investissement est très difficile pour eux. Le maintien en état du patrimoine devient problématique. Mais moi, ça fait à peu près 20 ans que je demande à ce que le logement social, pourquoi pas, mais qu'il y ait des règles dans le logement social et que l'impunité de comportement dans le logement social ne vienne pas ruiner toutes les politiques que l'on essaye de faire de réhabilitation et que les bailleurs sociaux arrêtent de s'échiner à réparer sans cesse, je dirais, un patrimoine qui est détruit par quelques individus seulement dans chacune de nos résidences. Et qu'à un moment donné, le discrédit du logement social auprès de tous les collègues maires et toute sensibilité politique confondue, quand on les entend en privé et qu'ils ne sont pas dans des effets de posture, relève davantage du fait qu'on n'est pas capable de faire respecter ce patrimoine par les locataires que le logement social qui, de surcroît souvent, est de meilleure qualité technique que ce que la promotion immobilière peut par ailleurs produire lorsqu'on est sur des coûts dans la fourchette basse, je dirais, des prix d'acquisition du logement en accession. Tant qu'on ne redonne pas du crédit au logement social par la capacité à dire, écoutez, il y a une règle, vous la respectez, bienvenue, vous ne la respectez pas, c'est dehors, eh bien, ça coûte une fortune, personne n'en veut, Et on vient coincer encore un maillon, je dirais, de la production de logements en France, à défaut de pouvoir, à court terme, réhabiliter le pouvoir d'achat des Français. C'est mal parti pour le moment.
On voit bien qu'il y a une limite, d'ailleurs, à l'exercice du pouvoir exécutif, puisque cet État, qui a centralisé beaucoup de choses, finalement, vous a ôté des marges de manœuvre à vous, les élus locaux, qui vous ont amené, finalement, à des situations inextricables. Quand vous voyez, quand vous entendez comme ça des politiques, même maintenant, même le président de la République, dire finalement les maires, c'est pas si mal, et de peut-être touché par la grâce, retrouve les vertus de l'action municipale, de l'action de la collectivité locale, et qu'il considère finalement dans une certaine mesure, je trouve ça assez anecdotique, mais en même temps ça l'est pas, d'être les fantassins de la République. À portée de claque de vos administrés, de tout, hein, parce que quand on voit. Et je regardais justement des choses qui ne sont pas forcément toujours très politiquement correctes à aborder. C'est les indemnités des maires, vous savez, les indemnités des maires. Comparer les indemnités des maires avec celles des parlementaires, il n'y a juste pas photo. Vive le parlementaire. J'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est que comment finalement, autre que l'investissement, l'engagement, la passion du mandat de maire, peut-on attirer une nouvelle génération d'élus pour prendre en main les affaires? C'est juste pas possible.
Alors, je ne sais pas si ça se joue au niveau des indemnités, on peut toujours
discuter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça reflète
oui,
mais... l'idée de la valeur que l'on donne à celui qui gouverne la ville et qui la manage.
Je suis d'accord, mais je préférerais qu'on redonne de la valeur à celui qui gouverne la ville en permettant que celui qui tient le clou, c'est-à-dire le maire,
ben oui,
tienne également le marteau.
Ah.
Sauf qu'on nous demande, nous, de tenir 40 clous différents, et c'est 40 marteaux différents qu'on n'a pas dans la main, qui tapent sur le clou.
Très
et donc
image.
À un moment donné, que les maires retirent leurs mains du clou en disant, écoutez, à d'autres, ou après moi le déluge, ou que sais-je, voilà. Donc,
oui, ou de jeter l'éponge carrément pour de
bon, on l'a bien vu, il y a 1700 maires, je crois,
absolument,
1700 qui
absolument
sont partis depuis 2020, ce qui est considérable. Et puis on est tous un peu fatigués, on peut le reconnaître, sans... toute simplicité. Donc, redonnons le marteau au maire et on aura beaucoup plus, d'allant à tenir le clou. Et de toute façon, on reste à portée de baffe. Et donc, si on fait des erreurs, on le sera vite rattrapé par la patrouille. Notre population. Et puis, qu'il y ait un contrôle de légalité, c'est très bien. Et,
qu'en plus, vous avez fait la preuve budgétaire que vous êtes capable d'administrer les territoires de la meilleure des façons. Pourquoi l'État n'y arrive pas? Pourquoi il n'y arrive pas? Pourquoi l'État a cette prérogative de vous dire, attendez, là, pour faire des économies, là, je vous transfère les compétences, là, je vais vous enlever la taxe d'habitation, c'est-à-dire qu'en fait, on vous enlève le principal levier, que la politique délétère d'Emmanuel Macron depuis sa première élection au premier mandat a conduit à une catastrophe immobilière sans précédent, puisque, outre le fait que les Français soient mal logés, il y a 66 000 entreprises qui ont déposé le bilan le mois dernier, sur 2024 et sur les 12 mois glissants. Vous savez que 25% d'entre elles sont issus de la construction de l'immobilier. Alors si on voulait mettre le boxon dans tout ça, on ne s'y prendrait pas autrement. Et malheureusement, l'administré, est-ce qu'il fait la distinction entre vous, le maire, qui est le miroir ou l'image d'un État, de notre République, et la confusion qu'on peut avoir avec un État régalien qui finalement vous malmène.
Parce que vous avez sans doute de moins en moins, parce que je dirais de toute manière, toutes les mesures prises par l'État viennent amoindrir notre capacité d'agir, nous obligent à nous reporter de plus en plus sur nos concitoyens en termes d'imposition ou de prix du service public. C'est normal qu'il y ait un prix, mais il y a des limites également. Et puis après, alors, sur la question de l'endettement d'État, je voudrais être sûr que l'endettement ne soit pas une manière d'asservir un certain nombre de pays. En tout cas, j'estime que la France est asservie à son endettement, ce qui est extrêmement préoccupant. Mais là, c'est un autre débat. On pourrait aussi, Je suis plutôt de la famille souverainiste. Je suis pour la coopération entre les pays. Je suis pour l'Europe des nations, mais que les nations soient souveraines. Et je pense que là, l'aventure dans laquelle on nous emmène, on nous a emmenés avec l'Europe, et
avec
on continue
l'Europe,
à nous emmener, parce qu'avec le Covid, il y a eu un vrai coup d'État, avec le Covid et l'Ukraine, un vrai coup d'État sur des prérogatives qui n'étaient pas celles de l'Europe, mais celles des nations qui ont été transférées, je dirais, quasiment subrepticement, mais réellement néanmoins, à Bruxelles. Et on continue, le dernier discours d'Emmanuel Macron, je dirais, montre vraiment son fédéralisme à tout craint au niveau européen. Bon, Là, on va sur des sujets qui dépassent largement les compétences d'un maire, ou en tout cas ce sur quoi il peut s'adresser à sa population, mais qui ont des effets extrêmement délétères sur la vie économique et sur la vie sociale de notre pays.
Bien sûr.
Et qu'en 2026, on voit un dégagisme extrêmement violent, et avec d'autres raisons dans certaines villes, notamment l'impact du conflit de Gaza sur les populations de culture ou de confession musulmane qui les heurtent, ne sont pas les seuls à être heurtés par ce qui peut se passer là-bas. Mais, et on le voit avec certains scores électoraux qu'on a vus aux européennes, mais qu'on a vu confirmer, et je dirais avec une grande force au moment des législatives, eh bien, tracer les lignes dans la continuité. Et en 26, élection municipale qui sera, contrairement aux autres années, à un an de l'élection présidentielle, et donc oui, sera déjà une pré-présidentielle. Et quel gouvernement aura-t-on à cette époque-là, et quelle péripétie aura-t-on connue dans notre pays entre maintenant et 2026? Il y en aura sans doute d'autres, et avec des sujets de mécontentement qui viendront peut-être se cristalliser, se focaliser sur une élection municipale, où le coefficient local viendra s'estomper et on sera sur un dimensionnement national, un raisonnement national, me semble-t-il. En tout cas, c'est un paramètre à prendre en compte.
Parce que pour vous, la dimension de ce conflit, qui est un conflit qui ne concerne pas et ni l'Europe et ni la France directement, aura des répercussions sur la façon de cohabiter, mais aussi de vivre ensemble. Parce que la France a toujours défendu ce modèle, vous savez, ce modèle laïque et républicain, qui est notre creuset, à vous et à moi, qui est le creuset de tous ceux qui finalement ont été les, j'allais dire entre guillemets, les pièces rapportées de la République. Mais encore une fois, est-ce que ce creuset républicain laïque auquel nous tenons impérativement, et je crois que c'est le creuset même de la République, c'est l'esprit de la constituante, c'est l'esprit même de la Constitution, pourrait être mis à mal par ces phénomènes exogènes, géopolitiques, selon vous, et peuvent rebattre les cartes d'une élection, par exemple?
Je dis qu'aux élections européennes et aux élections législatives, le succès du nouveau Front populaire, en cristallisant sur ce sujet-là, a déjà modifié les rapports de force électoraux sur notre pays,
oui,
et par là même dans nos villes. Et on voit bien, je dirais, l'activité que certains députés déploient. Ils font de la politique, mais ce sujet-là reste central et est un catalyseur.
Un catalyseur plutôt racoleur, on peut le dire. Hein.
Mais
finalement,
la manière dont c'est traité, je la conteste. Je ne peux pas, néanmoins, par honnêteté intellectuelle, contester que ce qui se passe à Gaza puisse émouvoir. Et c'est toute la difficulté du juste positionnement de cela, et à quel moment ça devient du racolage et de la récupération. Extrêmement dangereuse, parce que les ressorts sur lesquels on joue sont des ressorts extrêmement puissants.
Bien sûr.
D'autant
plus puissant qu'il y a une très forte proportion de Français de confession musulmane, on peut le dire.
Tout à fait, oui.
Et donc que ça les touche, c'est tout à fait normal. Et nous sommes tous très touchés, bien évidemment, parce que aucune vie, qu'elle soit israélienne ou qu'elle soit gazaoui ou qu'elle soit autre, ne mérite effectivement de subir ce que subissent actuellement les conflits du monde. Mais je rappelle quand même qu'il y a une dizaine de conflits, que si on s'amuse à faire une comptabilité mortifère, je peux citer les Ouïghours avec plus de 100 000 personnes massacrées, je peux citer le Myanmar massacré littéralement par la junte birmane, et je ne vous parle pas des trafics d'organes que peut produire de manière j'allais dire presque dans une impunité incroyable à l'égard du monde, l'Ukraine. Le conflit en Ukraine, la faiblesse de réponse de l'Europe, je vais y aller directement, on va même parler de lâcheté littéralement de l'Europe. Vous savez, en 1937, nous savions, la Société des Nations savait que le chancelier allemand allait aller dans les Sudètes. Il l'avait déjà annoncé. C'était pas une surprise. Depuis l'élection de 1933 à la chancellerie allemande, Adolf Hitler avait dit oui, les Sudètes sera un sujet. Bon. Il y a eu deux phénomènes, où la Société des Nations, etc. Il y a le phénomène de l'annexion de l'Autriche qui a posé de problème à personne, qui a fait fuir une grande partie de l'intelligentsia politique d'Autriche. Ensuite, il y a eu les Sudètes, qui étaient un test finalement de la résistance européenne, outre les traités européens qui avaient été mis en cause. Puis après, il y a eu d'autres manœuvres jusqu'à le réarmement sur les Rhins, dont les Français d'ailleurs savaient qu'il pouvait se produire. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, je ne vais pas comparer, mais ce que je veux dire, c'est que on catalyse effectivement un phénomène qui est un phénomène exogène à l'Europe, qui est le conflit israélo-palestinien et qui concerne effectivement, on peut bien évidemment humainement s'émouvoir et d'un côté comme de l'autre des effets tragiques, mais le sort qui est fait à l'Ukraine, très franchement, ben moi je regarde ça, je me dis mais quelle honte.
Il est cynique.
Mais quelle honte. On est sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, de victimes civiles, innocentes, à 2h30 de Paris, qui aujourd'hui meurent sous les bombes de Vladimir Poutine, dont on ne peut pas dire que ce soit le roi des démocrates, d'accord ? Et on a une Europe qui dit rien, parce qu'on a juste peur d'une chose, c'est que le robinet à gaz soit coupé. Parce qu'en plus, je vais vous dire, Vladimir Poutine, il l'a carrément dit dans une interview. Ça ne va pas être facile quand on est un homme politique, dans la localité dans laquelle vous êtes, de pouvoir justement exprimer toutes ces choses qui sont terribles aujourd'hui à nos yeux, dans un 21e siècle qui se voulait certainement très différent.
Ce n'est pas simple, mais je m'y emploie en petit comité, puisqu'il n'y a rien de pire que le non-dit, et rien de pire que le non-dit qui macère.
Voilà. Comment ça se passe à Montfermeil en ce moment ? Quels sont les défis auxquels vous devez faire face ? Et puis j'avais une question complémentaire. 2025 arrive, c'est une période préélectorale. Vous en êtes déjà à votre 4e mandat, ça fait 22 ans que vous êtes maire. Vous avez fait la preuve. Alors en plus, ce qui est bien avec vous, Xavier Lemoine, c'est que vous avez fait la preuve de 3 choses. La première, c'est que vous avez défié tous les pronostics. Je suis un maire bâtisseur, je transforme la ville et je suis réélu.
Oui, d'accord.
Absolument. Oui, ok. La deuxième chose, c'est que vous avez toujours affiché votre position, quoi qu'il en coûte, et vous avez toujours affirmé votre engagement sans jamais entrer dans des, j'allais dire, dans des combines ou dans des consensus ou dans des compromissions politiques.
J'accepte.
Ce qui vous a distingué. Et la troisième raison, c'est que vous êtes l'un des rares élus locaux à bien maîtriser le dossier de la gestion d'une ville comme la vôtre, qui est une ville qui s'est littéralement transformée. Et vous avez fait la preuve qu'il n'y a pas de fatalité dans une municipalité.
C'est vrai.
Parce que je peux vous dire, prendre Montfermeil, vous le savez, il y a 22 ans...
Je succédais à mon prédécesseur qui était depuis 83 dans la même philosophie globalement politique. Mais oui, j'accepte sur les trois constats que vous faites. Maintenant, il peut y avoir le mandat de trop. Pour les grands enjeux de Montfermeil, le grand enjeu, c'est l'arrivée du métro. La ligne 16.
Extraordinaire.
Qui va multiplier par 10 le nombre d'emplois accessibles en 45 minutes. On passe de 350 000 emplois
ça
à 3 millions.
Ça va mettre Montfermeil au centre de Paris en...
Ça mettra Montfermeil en... On sera en une demi-heure à Pleyel et on sera en 7 minutes à l'université de Marne-la-Vallée. Aujourd'hui, c'est une heure pour aller à Marne-la-Vallée.
Rendez-vous.
C'est une heure à Pleyel.
Donc Paris sera une encablure.
On abolit les distances. Et si c'est le nombre d'emplois, 10 fois plus de nombre d'emplois accessibles, c'est aussi des lieux de distraction, des lieux de consommation, des lieux de culture, des lieux de soins, etc.
La ville va.
Voilà. Donc toute la politique a consisté avoir une politique foncière très active pour pouvoir saisir toutes les opportunités du métro lorsqu'il sera réellement là et de ne pas laisser faire tous les acteurs qui auraient voulu anticiper et éventuellement faire de la plus-value. Pour qu'on puisse tranquillement, notamment sur le développement économique, on a la reconstruction de notre hôpital et je pense que Montfermeil peut devenir, on a beaucoup d'établissements médico-sociaux, etc. Donc il y a un vrai pôle sanitaire sur Montfermeil qui peut être développé, notamment sur les friches de l'ancien hôpital. Avec l'arrivée du métro, ça facilitera encore les choses. Et donc,
et vous ne craignez pas une envolée des prix à grâce au métro ?
Pour l'instant, on ne la constate pas et on fait très attention à ça.
Mais il y a un effet d'aubaine, un effet d'embellie.
Oui, on l'a essayé de le canaliser.
D'accord, vous arrivez à maîtriser ça.
Et je suis très exigeant sur la qualité des choses et surtout sur les ténements fonciers sur lesquels les promoteurs veulent exercer.
D'accord, mais sur l'ancien, est-ce que la mairie préempte lorsque c'est stratégique
J'ai une politique extrêmement active de préemption avec l'aide de l'EFIF, avec l'aide de la CIFAE.
C'est la démonstration qu'avec la puissance politique que vous avez, c'est-à-dire la détermination, vous pouvez, parce que c'est formidable le métro pour les...
Oui.
Comment on appelle les habitants de Montfermeil ?
Les Montfermeillois.
Les Montfermeillois, ça doit être formidable. Ils l'attendent avec impatience, non ?
Tout le monde.
On est
d'accord.
Et vous n'y êtes pas pour rien.
C'est Christian Blanc, qui a bien compris que si on laissait Christian Blanc,
c'est absolument,
et qui a tenu très très fortement parce que la technostructure voulait supprimer cette ligne 16 sur Clichy-sous-Bois.
Absolument.
Elle avait disparu du temps de Jean-Marc Ayrault, et le maire d'Aulnay, de Sevran, de Livry, de Clichy et de Montfermeil ont fait un tel foin l'avant-veille de la réunion qui se tenait, je crois, à Vincennes, qu'elle a été restaurée. Alors, on nous a juste coupé les rames en deux, donc on a des gares qui sont deux fois plus courtes que les autres gares. Dans 20 ans, on gueulera parce que les trains sont trop courts, mais on l'a sauvé au prix de rames coupées en deux.
Je vous rassure, une fois que le tracé est fait, c'est sur le calcul que vous avez fait, on aura le tracé, de toute façon, il n'y aura plus qu'à arrondir un peu, ou allonger les rames.
On verra ce qu'on fera. Mais voilà. Donc,
belle victoire, quand même.
Donc c'est un moment d'attente. Et
belle
donc,
victoire. Voilà. C'est prévu pour quand
fin 26 pour Pleyel-Montfermeil et 28 pour Montfermeil.
Vous vous rendez compte, le désenclavement, l'accès à l'emploi, ce que ça va générer. C'est une belle victoire. Dernière question, Xavier Lemoine. On l'a vu, l'Île-de-France se mobilise autour de projets tractés par la région avec effectivement deux institutions qui aujourd'hui portent le territoire avec la métropole du Grand Paris et le Conseil régional d'Île-de-France. Paris est intramuros avec... les Parisiens n'ont pas été épargnés quand même. La fermeture, je ne dis pas la fermeture, mais la limitation, la très grande limitation de quatre arrondissements dans le cœur de Paris. Des zones à faible émission, bien évidemment, c'est plutôt une bonne chose. Une réduction de la vitesse à 30 km/h, mais surtout un périphérique à 50 km/h, au mépris même de ce qu'avait lancé la préfecture en disant qu'il ne verbaliserait pas et qu'il ne ferait pas. Madame Hidalgo est en train d'ajouter les uns aux autres des phénomènes qui feront qu'à un moment donné, on pourra quasiment peut-être plus circuler. Est-ce que ces orientations sur les mobilités, mais aussi sur le souci de l'énergie, on est tous d'accord qu'on veut sauver la planète, mais d'un point de vue pratico-pratique, et pour le pouvoir d'achat, et pour les commerces de proximité, et pour la mobilité des Franciliens, c'est pas toujours évident.
Je pense que ça pénalise la vie économique, ça pénalise la vie des familles, qui votent d'ailleurs avec leurs pieds, et on voit bien l'érosion familiale sur... voilà. Alors je ne voudrais pas juger l'action de mes collègues, mais je constate quand même... une défiance et des personnes qui ont décidé de ne plus rien avoir à faire avec la capitale, puisque ça devient vraiment dérimant pour des personnes qui habitent à 10-15 km.
Mais je confirme, d'ailleurs, Paris perd 10 000 habitants par an.
Voilà après,
en 10 ans, Paris a perdu 100 000 habitants, vous vous rendez compte?
Après, on verra comment...
Mais bon, c'est très clair. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter plus, Xavier Lemoine?
C'est pas moi qu'il faut souhaiter, c'est la France qu'il faut souhaiter.
Merci beaucoup, c'est une très belle conclusion. Merci Xavier Lemoine, je rappelle que vous êtes le maire de Montfermeil, ne changez rien. Et pour votre réélection, si je suis Montfermeillois en 2026, moi je vote pour Xavier Lemoine. Ouais. Merci en tout cas.
Merci.
Voilà, c'est la fin de notre journée, il est 18h10, nous sommes sur Raïmo et Territoria. On va se retrouver dès demain matin à partir de 9h30 avec Jean-Baptiste Venin qui prendra la suite du programme. Et on vous retrouve bien évidemment sur les ondes de Radio Imo et de Territoria. Prenez soin de vous et on se retrouve de demain matin, 9h30.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria.